Guerre et paix, deuxième partie, chapitre 3, scène 3. Il y avait à Moscou à cette époque un médecin français, très bel homme, de haute taille, aimable comme ses compatriotes savent l'être au besoin, et qui s'était fait en peu de temps une grande réputation dans les cercles les plus aristocratiques de la ville, où on le traitait même en égal et en ami. Le vieux prince, très sceptique en fait de médecine, l'avait toutefois consulté, d'après le conseil que lui en avait donné Mademoiselle Bourienne, et il s'habitua si bien à Métivier qu'il finit par le recevoir régulièrement deux fois par semaine. Le jour de la Saint-Nicolas, tout Moscou se porta à son hôtel pour lui présenter ses félicitations, mais personne ne fut reçu, à l'exception de quelques intimes, invités à dîner et inscrits sur une liste qu'il avait remise à la princesse Marie. Métivier crut bien faire, en sa qualité de docteur, de forcer la consigne et d'entrer chez son malade, dont l'humeur, ce matin-là, était véritablement massacrante. Se traînant de chambre en chambre, s'accrochant au moindre mot, il faisait semblant de ne rien comprendre de ce qu'on lui disait, comme pour se ménager une occasion de se fâcher. La princesse Marie ne connaissait que trop par expérience cette irritation sourde, toujours prête à faire explosion dans un accès de fureur, et aussi inévitable que le coup de feu d'une arme chargée. Toute la matinée se passa dans l'angoisse de ses pressentiments, mais il n'y eut point d'éclat jusqu'à l'arrivée du médecin. Après l'avoir laissé pénétrer chez son père, elle s'assit, un livre à la main, dans le salon, d'où elle pouvait aisément écouter, ou tout au moins deviner ce qui se passait dans le cabinet. La voix de Métivier se fit d'abord entendre, puis celle du vieux prince, puis les deux voix s'élevèrent à la fois, et la porte, ouverte avec violence, laissa voir sur le seuil le docteur terrifié et le vieillard, en robe de chambre, le visage bouleversé par la colère.
« Tu ne le comprends pas !»
criait-il.
« Et moi je le comprends, espion français, esclave de Bonaparte, hors d'ici, hors de ma maison !»
Et il referma la porte avec fureur. Métivier haussa les épaules, s'approcha de Mademoiselle Bourienne, qui, à ce bruit, était accourue de l'autre pièce, et lui dit
« Le prince n'est pas tout à fait dans son assiette, la bile le travaille. Tranquillisez-vous, je repasserai demain. »
Puis il sortit du salon, en enjoignant le plus grand silence, pendant qu'à travers la porte on entendait le bruit des pantoufles qui traînaient sur le parquet, et les exclamations réitérées de
« Traître, espion, traître partout, pas un instant de repos !»
Quelques minutes plus tard, la princesse fut appelée chez son père pour y recevoir l'explosion à bout portant. « N'était-ce pas sa faute, à elle ?» lui dit-il. « À elle et à elle seule, si l'on avait laissé entrer cet espion ?» Et la liste qu'il lui avait remise, qu'en avait-elle fait ? Par sa faute, à elle, il ne pouvait ni vivre ni mourir tranquille.
« Il faut donc nous séparer, sachez-le, sachez-le, je n'en puis plus !»
Il sortit à un moment de sa chambre, mais, craignant sans doute qu'elle ne prît point cette résolution au sérieux, il revint sur ses pas en s'efforçant de paraître calme.
« Ne pensez pas,
ajouta-t-il,
que je sois en colère. J'ai bien pesé mes paroles, nous nous séparerons. Cherchez-vous un gîte ailleurs, n'importe où. »
Et, mettant de côté la tranquillité qu'il avait affectée un moment pour se laisser aller de nouveau à un emportement terrible, il la menaça du poing et s'écria
« Dire qu'il ne se trouve pas un imbécile pour l'épouser !»
Rentrant précipitamment chez lui, il ferma de nouveau la porte avec fracas, fit appeler Mademoiselle Bourienne, et le silence se rétablit aussitôt dans son appartement. Les six personnes invitées à dîner arrivèrent à la fois vers les 2 heures. C'était le comte Rostopchine, le prince Lapoukine et son neveu, le général Tchatrov, vieux militaire et camarade d'armes du prince Bolkonski, Pierre et Boris Droubetskoï. Tous l'attendaient au salon. Boris, qui était venu à Moscou en congé, avait demandé à lui être présenté et avait si bien su conquérir ses bonnes grâces que le vieux prince fit une exception en sa faveur et le reçut chez lui, malgré sa qualité de jeune homme à marier. La maison Bolkonski n'était pas classée dans ce que l'on avait convenu à Moscou d'appeler « le monde ». Mais le seul fait d'être admis dans ce cercle exclusif et intime était considéré comme une distinction des plus flatteuses. Boris avait saisi cette nuance lorsque, quelques jours auparavant, le comte Rostopchine, invité à dîner, devant lui, par le général-gouverneur pour le jour de la Saint-Nicolas, lui avait répondu par un refus en ajoutant
« Il me faudra, vous savez, aller saluer les reliques du prince Nicolas Andreïevitch. » « Ah oui, c'est vrai. Et comment se porte-t-il »
avait répliqué le général-gouverneur. Le petit groupe réuni en attendant l'heure du dîner, dans l'antique et vaste salon démodé, faisait l'effet d'un conseil de juges délibérant sur une grave question, car tantôt il se taisait et tantôt il se parlait à voix basse. Le prince Bolkonski parut enfin, taciturne et sombre. La fille, plus intimidée et plus embarrassée que jamais, répondait du bout des lèvres aux hôtes de son père, et il pouvait voir facilement qu'elle ne prêtait aucune attention à ce qui se disait autour d'elle. Le comte Rostopchine seul tenait le dé de la conversation et racontait tour à tour les nouvelles de la ville et les nouvelles politiques. La Poutkine et le vieux Tchatrov parlaient peu. Le prince Nicolas Andreïevitch écoutait en juge suprême, et de temps en temps, par son silence, par une inclination de la tête ou par un mot, donnait à entendre qu'il prenait acte de ce qu'on soumettait à son appréciation. Il s'agissait de politique, et au ton général de la conversation, il était aisé de s'apercevoir qu'on blâmait unanimement notre conduite de ce côté-là et qu'on n'hésitait pas à trouver que tout marchait de travers et de mal en pis. La seule limite devant laquelle le causeur s'arrêtait ou était arrêté dans ses jugements, c'était lorsque, pour les motiver, il aurait dû s'en prendre directement à la personne de l'empereur. On parla de l'occupation par Napoléon du grand-duché d'Oldenbourg, de la dernière note russe, fort hostile aux conquérants, envoyée à toute la puissance de l'Europe.
Bonaparte se comporte avec l'Europe comme un corsaire avec un vaisseau capturé,
dit le comte Rostopchine, en citant une phrase qu'il répétait volontiers depuis quelques jours.
La longanimité ou l'aveuglement des souverains est incompréhensible. C'est le tour du pape à présent. Bonaparte travaille sans se gêner à renverser la religion catholique et pas une voix ne s'élève. Notre empereur est le seul qui ait protesté contre l'occupation du grand-duché d'Oldenbourg, et encore...
Le comte s'arrêta court. Il était arrivé à la limite extrême au-delà de laquelle personne n'osait s'engager.
Il lui a proposé un autre territoire en échange du grand-duché,
ajouta le vieux prince Bolkonski.
Déposséder des grands-ducs, c'est pour lui chose aussi simple que pour moi de transporter des paysans de Lysigorie à Bogoucharovo.
Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable,
dit Boris en prenant part à la conversation d'un air respectueux. Il avait été présenté au grand-duc à Pétersbourg et il lui plaisait de laisser entendre qu'il le connaissait. Le prince lui jeta un coup d'œil et fut sur le point de lui lancer une épigramme, mais il n'en fit rien. Le trouvant sans doute trop jeune, il ne daigna pas s'occuper de lui.
« J'ai lu notre protestation à ce sujet, et je suis étonné que la rédaction en soit si mauvaise. »
dit le comte Rostopchine avec la nonchalance assurée d'un homme parfaitement au courant de la question. Pierre le regarda avec une stupéfaction naïve.
« Qu'importe le style, comte, si les paroles sont énergiques.
Mon cher, avec nos 500 000 hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style. »
lui répondit Rostopchine. Et Pierre comprit le sens et la portée de sa critique.
« Chacun aujourd'hui noircit du papier, »
dit le maître de la maison.
« Ils ne font que cela à Pétersbourg. Mon Andriusha a composé tout un volume pour le bien de la Russie. » Ils ne savent que griffonner. »
La conversation languissait, mais le vieux général Tchatrov, après avoir fait force, lui donna une nouvelle impulsion.
Connaissez-vous l'incident qui s'est passé à la revue l'autre jour à Pétersbourg et la conduite du nouvel ambassadeur de France ?
Il me semble avoir entendu blâmer sa réponse à Sa Majesté.
Jugez-en plutôt. L'empereur daigna attirer son attention sur la division des grenadiers et sur la beauté du défilé. L'ambassadeur y resta complètement indifférent, et l'on dit même qu'il se permit de faire observer que, chez eux, en France, on ne s'occupait point de ses vétilles. Sa Majesté ne lui répondit rien, mais à la revue suivante, elle feignit d'ignorer sa présence.
Tous se turent. Ce fait touchait l'empereur. Aucune critique n'était donc possible.
Insolent,
dit le vieux prince.
Vous connaissez Métivier ? Eh bien, je l'ai chassé de chez moi ce matin. On l'avait laissé pénétrer malgré ma défense, car je ne voulais voir personne.
Et, jetant un regard de colère à sa fille, il leur conta son entretien avec le docteur, qui, d'après lui, n'était qu'un espion, et détailla les raisons qu'il avait de le croire. Raisons très peu convaincantes, à vrai dire, mais que personne ne risqua à réfuter. Quand on servit le champagne en même temps que le rôti, les convives se levèrent pour féliciter l'amphitryon, et sa fille s'approcha également de lui. Il la toisa d'un air dur, méchant, en lui tendant sa joue ridée, rasée de frais. On voyait à son air qu'il n'avait point oublié la scène du matin, que sa décision restait inébranlable, et que seule la présence des invités l'empêchait de la lui signifier une seconde fois. Se déridant encore un peu lorsque le café fut servi au salon, il exposa, avec une vivacité toute juvénile, son opinion sur la guerre qui allait s'engager.
« Nos guerres avec Napoléon,
dit-il,
seront toujours malheureuses tant que nous rechercherons l'alliance de l'Allemagne, et que, par une conséquence déplorable du traité de paix de Tilsit, nous nous mêlerons des affaires de l'Europe. » Il ne fallait prendre parti ni pour ni contre l'Autriche, et c'est vers l'Orient que nous devons exclusivement nous porter. Quant à Bonaparte, une conduite ferme et des frontières bien gardées seront suffisantes pour l'empêcher de mettre le pied en Russie, comme il l'a fait en 1807.
Mais comment nous décider à faire la guerre à la France, prince ?
Demanda Rostopchine.
Comment nous lèverions-nous contre nos maîtres, contre nos dieux ? Voyez notre jeunesse, voyez les dames. Les Français sont leurs idoles, Paris est leur paradis.
Il éleva la voix pour bien être entendu de tous.
Tout est français, les modes, les pensées, les sentiments. Vous venez de chasser Métivier, tandis que vos dames se traînent à ses genoux. Hier, à une soirée, j'en ai compté 5 de catholiques qui font de la tapisserie le dimanche en vertu d'une dispense du Saint-Père, ce qui ne les empêche pas d'être à peine vêtus et dignes de servir d'enseigne à un établissement de bain. Avec quel plaisir, prince, n'aurais-je pas retiré du musée la grosse canne de Pierre le Grand pour en rompre à la manière russe les côtes à toute notre jeunesse ? Je vous jure que leur saut engouement serait bien vite allé à tous les diables. »
Il se fit un silence. Le vieux prince approuvait de la tête et souriait à la boutade de son convive.
« Et maintenant, adieu, Excellence, et soignez-vous. »
ajouta Rostopchine en se levant avec sa brusquerie habituelle et en lui tendant la main.
« Adieu, mon ami, tes paroles sont une vraie musique. » « Je m'oublie toujours à t'écouter. »
Et, le retenant doucement, il lui offrit à baiser sa joue parcheminée. Les autres, imitant l'exemple de Rostopchine, se levèrent également.